André Birmelet, vous êtes pasteur dans les églises luthériennes de France et vous enseignez la théologie systématique à la faculté protestante de Strasbourg. Quels sont les points saillants qui vous ont mené jusqu'à ces responsabilités ?
À l'origine, j'ai fait des études de mathématiques, mais les événements de mai 68 ont passé par là et nous étions toute une série de jeunes engagés dans les églises qui avons décidé de devenir pasteurs. On a abandonné les recherches plus scientifiques au profit de travaux théologiques parce qu'il fallait vraiment changer nos paroisses, changer les églises.
Vous dites que c'est 68.
C'est 68.
Mais quoi dans 68?
Dans 68, c'est ce mouvement de réveil, cette conviction qu'on peut construire un monde autre. Et nous sommes engagés à l'époque déjà dans les mouvements de jeunes des églises. Et alors, nos mouvements de jeunes, on prend conscience du fait qu'il nous faut à tout prix des pasteurs et il nous faut à tout prix, nous en étions convaincus, des gens voulant réformer les églises. Et sur cette base-là, je deviens pasteur. Je suis pasteur à partir de mars 72 et ma fierté a été de demeurer pasteur d'une paroisse, responsable d'une paroisse pendant une dizaine d'années. Mais en 1974, je me suis fait accrocher par la Fédération luthérienne mondiale qui avait ouvert un centre au niveau mondial, un centre de recherche, étant donné que le Vatican II, le Concile, avait mis en place des dialogues œcuméniques. Donc le monde luthérien s'est organisé et s'est doté d'un institut qui, par hasard, a été installé à Strasbourg. Il aurait pu l'être dans plein de régions du monde, où il y a eu 5 chercheurs qui faisaient les dialogues avec toutes les églises chrétiennes. Et ils m'ont demandé d'être leur assistant. Comme ça, c'était un coup de téléphone un beau matin. Moi, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par accepter et j'ai mis mon doigt dans le travail œcuménique international qui me passionne depuis maintenant, voyez, presque 40 ans.
On parle aujourd'hui beaucoup de dialogue. Qu'est-ce que vous, André Birmelet, vous mettez sous le mot dialogue ?
Ce que nous mettons sous le mot dialogue, d'ailleurs, et les responsables ici à Rome du Conseil pontifical pour l'unité vous diraient exactement pareil, c'est certainement pas la recherche d'une uniformité, mais l'essai de dire que nos différences ne s'ajoutent pas l'une à l'autre, mais que la foi chrétienne peut se dire de différentes manières. Et c'est ça ce qui m'a fasciné dès 1974 et ce qui me fascine encore aujourd'hui. Je ne passe pas mon temps, nous ne passons pas notre temps dans les dialogues à vouloir trouver une formulation commune, mais nous essayons de comprendre dans quelle mesure l'autre, dans son identité, dans sa culture, avec son histoire, avec sa piété, ne dit pas la même chose, le même évangile. Si vous voulez, moi j'aime bien prendre l'histoire de la Pentecôte. Il n'a jamais été dit qu'à la Pentecôte, tous parlaient un espéranto. Mais il a été dit par contre, tiens, je te découvre toi, proclamant dans ta langue les merveilles de Dieu. Comment se fait-il que toi, dans ta langue, tu puisses être en mesure de le faire? Et c'est ce qui me passionne. Je crois que l'évangile peut se dire de manière très différente selon les cultures et selon les familles confessionnelles.
Est-ce qu'on peut dire que l'évangile est une forme de symphonie qui comporte beaucoup d'instruments et que tous ces instruments, ce sont justement ces différentes parties dont vous faites partie?
Vous pouvez utiliser cette image, l'image de l'orchestre. Je crois que c'est une bonne image. Je dirais pour ma part que l'évangile demande toujours à s'incarner, à être traduit dans une histoire, et que chacun d'entre nous, dans sa manière de faire, exprime la plénitude de l'évangile, mais aucun d'entre nous n'a l'exclusivité de l'évangile. On peut le dire d'autre manière que de la mienne. Et moi, ça m'a ouvert énormément d'horizons dès que j'avais compris ça au début du dialogue œcuménique. Moi, assistant au début, évidemment, j'étais absolument persuadé que ma façon de voir était la seule vraie, comme tous les débutants. Avec le temps, j'ai compris que les autres, en fait, disaient à leur manière, je dirais même pas la même chose, ils disent le même évangile dans leur langue. Et c'est ça ce qui est passionnant.
C'est ça ce qui vous a ouvert toutes ces perspectives.
Oui, voilà. Alors mon travail a été centré durant ces années, dans un premier temps, sur le dialogue entre les familles de la réforme. Donc les luthériens, les réformés, les anglicans, les méthodistes. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes au stade où, dans nos différences, il ne s'agit surtout pas d'éliminer les différences, mais dans nos différences, nous nous reconnaissons pleinement les uns les autres et nous passons d'une église à l'autre, même en tant que pasteur ou prêtre, sans que cela pose un problème entre temps, presque au niveau mondial, pas tout à fait dans tous les continents, mais en tout cas en Europe et en Amérique du Nord. Et dans le dialogue des luthériens et des catholiques, nous en sommes au même point dans ce texte que nous avons d'ailleurs préparé côté luthérien dans l'institut où je suis, sur le salut. Donc nous disons en 1999, nous ne disons pas le salut dans les mêmes termes les uns et les autres, mais la manière dont toi tu formules les choses est pour moi une manière recevable, un discours légitime, et vous savez que ça a entraîné la levée des condamnations réciproques entre le monde catholique et le monde luthérien en 1999. Et nous espérons bien que nous allons parvenir à aller plus loin. Alors nous avons travaillé d'ailleurs ici à Rome il y a un an sur le fameux texte publié par le cardinal Casper, Harvestings of Roots. Donc il a publié un document de 250 pages où il fait le bilan de son temps au Conseil pontifical pour l'unité. Et nous espérons bien que viendra peut-être un jour où on pourra dire ce qu'on a dit à propos du salut, on pourra aussi le dire pour l'Église. On pourrait peut-être aussi être Église autrement que qu'à la manière de l'Église catholique romaine. Et c'est bien ça l'enjeu, je vous apprends rien, que c'est là que le bât blesse.
Vous parlez du dialogue, vous parlez du salut, et je sais aussi qu'un thème vous est cher, celui de la communion. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La communion ecclésiale », dans lequel justement vous cherchez à étudier comment arriver à cette communion, et vous parlez du consensus différencié. Vous pouvez nous en parler ?
Il nous faut une vision de l'unité. Et c'est ça ce que le consensus différencié veut proposer.
Alors vous parlez de vision de l'unité. Oui. Quelle est-elle ?
Lorsque vous prenez le livre des Actes, la première communauté chrétienne à la Pentecôte parle différentes langues. Et vous avez alors, dans les versets 41-45 de Acte 2, on vous décrit les premiers chrétiens. Ils sont baptisés, ils célèbrent le repas du Seigneur, ils sont fidèles dans l'enseignement des apôtres, ils mettent leurs biens en commun, ils vivent dans la louange et la prière, et tout cela est appelé la communion. Et en fait, la communion entre moi, ma tradition chrétienne, et une autre tradition chrétienne, est possible ou s'exprime dans le fait que nous avons le même baptême, le même repas du Seigneur, le même enseignement, un engagement éthique commun et une même louange. Et du moment que dans ta louange, dans ta célébration, je peux reconnaître cette Église, ben c'est dans ta différence que tu fais partie de l'Église une du Christ. Et c'est un consensus différencié, ne gomme pas les différences, mais a pour but de reconnaître dans la communauté de l'autre cette Église appelée communion à la Pentecôte. Ça, ce n'est pas une invention du dialogue moderne, c'est tout simplement ce que vous trouvez dans toute l'histoire de l'Église et ce que vous trouvez aussi dans le décret sur l'œcuménisme de Vatican II. Il ne s'agit pas d'exiger une uniformité, il s'agit de se mettre d'accord sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est la célébration de la parole et des sacrements dans l'Église du Christ.
Vous parlez de l'Église du Christ, oui. Cette Église qui, justement, devrait être communion. Quelles sont aujourd'hui ces avancées pour qu'elles deviennent de plus en plus ce lieu de la communion?
Les avancées, en fait, théologiques sont toutes données. Je crois que même si on refait les dialogues, on ne va pas arriver à des choses qui diraient autre chose. Nous sommes à un stade où les théologiens responsables, entre eux, n'ont guère de peine à dire de l'autre, c'est l'Église du Christ. Notre difficulté actuelle vient beaucoup plus du contexte. Le contexte n'est pas facile au niveau politique. Vous êtes après 2001 et le 11 septembre, vous êtes dans une situation de crise économique, de tension écologique. Ceci provoque des réactions identitaires et en premier lieu au niveau de nos communautés locales. À mon avis, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas le sommet qui bloque à l'heure actuelle, mais ce sont les bases qui ont une tendance extrêmement conservatrice et identitaire. Et la difficulté œcuménique dépend en ce moment de cette évolution. Et elle n'est pas sans poser problème. Je pense que les responsables de nos églises s'ils avaient la liberté, feraient probablement des pas supplémentaires et complémentaires aujourd'hui, mais ils savent parfaitement que ça risquerait de provoquer en leur propre sein des tensions fort vives. Alors, comment évoluer? Je garde en mémoire Jean-Paul II, qui tout simplement, c'était en 1993, lorsqu'il nous a dit pour la première fois, « Écoutez, moi je ne veux pas sortir du deuxième millénaire sans avoir réglé la question du salut, qui a été le problème qui a provoqué la division au deuxième millénaire. Je voudrais, avant l'année 2000, qu'on en arrive à cela. » Et vous aviez la volonté politique, et le 31 octobre 1999 a été signé le texte dont nous parlions déjà tout à l'heure. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est surtout une affaire de volonté politique. Je crois que toutes les églises chrétiennes en ce moment connaissent ces difficultés internes et sont habitées par une certaine crainte d'ouvrir trop les portes aux autres.
André Bermelet, quels sont vos espoirs alors? Quelle est votre espérance aujourd'hui pour ces 50 prochaines années?
Je pense que si vous mettiez une personne d'avant Vatican II dans nos églises actuelles, elle serait très très surprise de l'évolution et surtout du don de l'esprit et du chemin de l'unité que nous avons parcouru. Et je voudrais que celle qui dans 50 ans pourra regarder le chemin parcouru entre donc 2011 et 2061 puisse dire la même chose.